Bien le bonjour, nous sommes toujours sur Radio Campus 93.3. Nous sommes toujours Onda Bulle et nous sommes toujours au FIBD, donc 2017. Et nous avons le grand plaisir d'être avec Fabrice Parme. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette interview. Difficile, dans le peu de temps qui nous incombe, de présenter votre CV complet, parce qu'il est quand même particulièrement complet. Il s'étend de l'île de la Tortue au pavillon Bac-Bernic jusqu'à la jungle du Gabon-Conga, c'est bien ça? Disons, ça en fait quand même du chemin.
Oui, c'est de la jungle dans les deux cas, entre la famille pirate et Astrid Bromure. Et puis, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu Le Roi Catastrophe, Venezia, un album de Spirou, Jardin Sucré. Mais avant la famille pirate, il y a eu des tas de choses un peu à droite à gauche. Et Astrid a précédé tout ça. C'est-à-dire qu'Astrid, elle est née en juin 1985, quand j'étais encore étudiant aux arts appliqués du Perret à Paris.
D'où est venue l'idée justement?
Je ne sais plus, parce que c'était il y a longtemps. Je sais que c'est apparu d'un bloc. J'étais dans le hall du musée Beaubourg à Paris. Et un après-midi de juin 1985, ça m'est venu comme ça à l'esprit. J'ai eu l'idée de Astrid Bromure, d'une petite gamine dans les années 20-30 et tout un univers autour. Et après, j'ai mis des années pour essayer d'en faire quelque chose. Et puis la difficulté aussi était qu'il n'y avait pas l'éditeur. L'éditeur pour le faire n'existait pas. Et puis un jour, Charlotte Moonlick, avec qui je travaillais chez Flammarion, de Père Castor, m'a appelé pour me dire qu'ils allaient créer une nouvelle maison d'édition bande dessinée jeunesse et adulte, mais la jeunesse m'intéressait moi, avec l'école des loisirs. Et je lui ai dit d'accord, c'est très bien tout ça. Elle m'a demandé si j'avais un projet. Je lui ai dit bah, je sais pas, elle s'appelle comment la maison? Elle m'a dit bah, je sais pas. Alors je lui ai dit bah, rappelle-moi quand tu sauras comment ça s'appelle. Et puis elle m'a rappelé, elle m'a dit rue de Sèvres, et là je me suis dit oh, ah ouais, oui, j'ai plein d'idées, et je me suis dit Astrid Bromure, et j'ai ressorti ça de mes placards avec toutes mes notes, et ce qui fait que je dois avoir dans mes placards 28 synopsis et puis des centaines et des centaines de pages de notes. Et puis tous les personnages qui apparaissent dans Astrid Bromure ont été créés pour la plupart entre 85 et 88 à peu près.
Effectivement, disons, c'est un personnage qui t'accompagne depuis donc un sacré moment.
Oui, depuis longtemps, mais s'il n'y avait pas le bon éditeur, je ne pouvais pas le confier. C'est-à-dire que j'ai besoin de complicité avec l'éditeur pour ce personnage-là. Et à chaque fois, pour chaque projet, il faut avoir les bons interlocuteurs. Moi, je ne pense pas qu'on puisse se passer de l'éditeur. C'est-à-dire que chaque éditeur a sa personnalité, chaque maison d'édition a son histoire. Et donc, il vaut mieux avoir la bonne personne pour le bon projet, plutôt que de casser, détruire le projet et en faire quelque chose de bancal. Ça, je peux pas. Donc, Astrid, ça correspond bien à Charlotte, Moonlick, ça correspond à Rue de Sèvres, et d'autres projets correspondraient mieux chez Dargaud, Dupuis, je sais pas, Delcourt ou ailleurs. Quoi.
Pour en venir donc à ce troisième volume d'Astrid Bromure, Comment épingler l'enfant sauvage, on peut voir un peu, peut-être une méthode un peu différente des deux premiers. Dans les deux premiers, Astrid est à l'origine seule et au fur et à mesure elle va se faire des amis, que ce soit donc à l'école ou avec la petite souris. Dans celui-ci, elle se fait également un ami, mais celui-ci ne va pas emménager, on peut spoiler un petit peu, ne va pas emménager à la fin avec Astrid.
Dans la première histoire, le personnage n'emménage pas, c'est qu'il est là, c'est la petite souris, donc elle est dans les murs, elle va rester dans les murs. Dans le second,
on la voit apparaître néanmoins dans les suivants aussi.
Voilà, on la voit apparaître. De la même manière, les fantômes qui apparaissent dans le 2 apparaissent encore dans le 3, dans les cadres, dans les tableaux. Et les fantômes, ils peuvent rester, ils sont invités, ils peuvent rester. Mais là, un enfant qu'on va chercher dans la jungle, de le garder dans la serre, c'est un peu horrible quand même.
C'est un peu horrible. Ça aurait pu être comme ça pourtant chez Disney. Une fin chez Disney, ça aurait souvent été justement de recréer une famille pour cet enfant-là. C'est justement ça aussi qui est intéressant dans Astrid Bromure un peu, non?
Oui, mais ça, on y a réfléchi. Avec l'éditrice, on a une discussion là-dessus. On s'est dit non, mais c'est pas possible. Il a sa vie, son univers, c'est cette jungle. Il a une famille, ce sont les oiseaux. Il a été élevé par eux. Il doit rester dans son environnement. Et on n'a pas le droit de l'extraire sans sa volonté, véritablement. C'est-à-dire qu'il arriverait dans un univers où il vient pour une raison, mais il serait vite malheureux, quoi. Donc non, il faut qu'il retourne dans sa jungle. Mais à chaque fois, ça finira pas toujours avec quelqu'un qu'elle adopte. C'est-à-dire qu'il peut avoir des amis qui sont loin ou des amis qui, effectivement, elle amalgame dans son manoir, quoi.
Justement, un des aspects qui est très important, et tu l'as un peu évoqué avec la réponse à l'instant, c'est tu as beaucoup travaillé sur la thématique de l'enfant roi, et je pense que c'est vraiment l'idée de travailler aussi sur la responsabilité des actes, et c'est une manière aussi d'aborder ça pour les enfants, à travers des histoires, que leurs actes peuvent avoir ont des conséquences, forcément, et c'est une manière un peu moderne d'adapter ça. Je trouve que c'est un peu l'une des thématiques qui sous-tend beaucoup ton œuvre.
Ah, ça m'échappe un peu, mais c'est certainement ça. C'est-à-dire que dans Le Roi Catastrophe, déjà l'idée, j'avais apporté cette idée, j'avais pas trouvé tout seul, mais j'avais mis le doigt dessus il y a très longtemps. Et puis quelqu'un qui maintenant est réalisateur de dessins animés m'avait dit, bah voilà, il faudrait faire un enfant roi. Donc on avait fait un premier prototype pour le journal Spirou, et ensuite on avait reproposé cette idée à Lewis, qui lui s'en est emparé. Et lui étant un enfant roi, Lewis a eu une grande facilité à raconter des histoires avec ça, et j'arrivais souvent avec les thématiques pour Le Roi Catastrophe. J'expliquais, voilà, Adalbert est face à ceci, face à cela, etc. etc. Puis Lewis développait souvent les idées en fonction des noyaux que je lui livrais. Mais Le Roi Catastrophe, c'était un enfant roi pleinement roi, c'est-à-dire il n'y avait pas d'adulte, il n'y avait pas de limite. La différence avec Astrid, c'est qu'il y a des limites sans arrêt. Elle a quand même une mère très autoritaire, qui est assez égocentrique, et qui la laisse un peu, qui ne sait pas trop s'occuper de sa gamine. Et puis il y a d'autres adultes autour, c'est-à-dire que s'il y a cette mère, qui n'est pas vraiment maternelle, il y a une cuisinière qui, elle, au contraire, est maternelle, et puis il y a une préceptrice qui, elle, elle s'occupe de l'éducation vraiment, et elle lui apprend des tas de choses, quoi. Donc il y a à peu près là trois figures féminines de parents forts, ce qui me permet à chaque fois de jouer sur une corde avec ça et comment l'enfant va réagir avec ça. Et puis il y a deux adultes, il y a un père qui est plutôt absent et plutôt sympathique avec elle, qui aime sa fille mais qui laisse un peu tout ça se faire tout seul. Et puis un valet que j'ai pas encore exploité à fond mais qui va être exploité dans les albums suivants, qui a certainement une vie un peu plus compliquée que ce qu'on croit, et qui est là avec un rapport d'autorité, etc. Donc à partir du moment où j'ai ce rapport de cet enfant avec cet adulte, c'est un enfant assez solitaire, quand même gâté, milieu très très bourgeois, mais que finalement là elle peut pas faire tout ce qu'elle voudrait, donc elle est obligée de ruser pour arriver à faire ceci, cela. Donc parfois ça passe, parfois ça casse. Et puis comme elle est assez solitaire, elle veut pas rester enfermée dans sa solitude. C'est pas les aventures d'un enfant solitaire et on déprime avec lui. C'est un enfant qui a une volonté pas possible et qui veut sortir de cette solitude et aller vers les autres. Et ça, c'est un peu tout le monde. On est tous enfermés dans notre petite tête, et quand on est enfant, on est avec notre timidité et on va vers les autres, et des fois ça passe et des fois ça casse. Donc elle est face à ça, à tous ces problèmes, et je pense que tous les enfants connaissent ça à un moment ou à un autre. Donc moi, pour créer ce personnage, je vais fouiller dans mon enfance. Je me souviens de telle et telle situation, et je pars de ça et de l'impression que j'avais à l'époque et ce que je comprenais pas. Mais j'ai vécu tel rapport, mais maintenant je suis capable d'analyser pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi j'ai compris ou pas compris. Donc du coup, je peux raconter une histoire à partir de ça, et probablement que les enfants, bah, ils comprennent cette situation, eux, et ils peuvent effectivement se projeter dans ce personnage, quoi. Mais si je partais pas de mon vécu, ce personnage-là, les enfants pourraient pas s'y attacher, quoi.
C'est évident. Justement, par rapport aussi à Astrid Beaumur, j'ai l'impression qu'il y a une petite rupture dans la manière de raconter des histoires. Le nombre de cases me semble un peu différent. Notamment, il y a pas mal de pages où on va avoir des petits strips en fait, de trois cases qui vont se lier, qui permettent de changer le rythme de la lecture à même l'histoire. C'est quelque chose qui me semble était un peu absent des albums précédents.
Des albums d'Astrid précédents
Déjà des albums d'Astrid précédents, et même aussi de ce qui avait pu être fait avec Adalbert ou d'autres personnages.
Mais parce que pendant des années, j'ai cherché comment je voulais raconter les choses. C'est-à-dire, le tout, c'est pas de raconter les choses, c'est comment on le raconte, et avec la bande dessinée, comment on raconte avec de la bande dessinée. La bande dessinée, c'est pas un scénario qu'on illustre avec des images. La bande dessinée, c'est un travail de composition, où pour moi, la clé de voûte, c'est la composition, c'est l'art de la composition, et c'est comment le texte, l'image s'imbrique. Comment les deux forment un tout, et c'est pas un art hybride, c'est vraiment un mélange de deux arts littéraires et visuels, plastiques, dessin, quoi. C'est deux choses qui viennent se rencontrer pour créer un seul art. Et donc pendant des années je me disais, bon, les cases c'est pratique pour ça, et les pas de cases c'est pratique pour ça. Et dans Le Roi Catastrophe, il n'y avait quasiment jamais de cases, et j'avais des formes, et je n'étais pas complètement convaincu par cette structure. Et quand je passais sur d'autres systèmes avec des cases plus classiques, avec par exemple Spirou ou Venezia, je me disais, ouais, mais c'est quand même contraignant. Puis à un moment, je me suis dit, mais non, en fait, je vais utiliser la case quand j'ai besoin de planter un décor, parce que c'est la façon la plus simple d'ancrer un décor dans une page. Et quand je n'ai pas besoin du décor parce qu'il est, est implicite, il est évident, c'est-à-dire comme on l'a vu l'image d'avant, on n'a pas besoin de le redessiner deux fois, donc je vais plutôt concentrer sur ce qui se passe entre les personnages. Donc là, je n'ai pas besoin de cases. Donc je me suis dit, voilà, j'ai déjà un principe et j'ai résolu ce problème que j'avais pendant des années. Donc j'ai construit une sorte de grille et à partir de cette grille, j'ai le droit à 3 strips ou 4 strips, plus des compositions intermédiaires, ou 2 colonnes, 3 colonnes ou 4 colonnes. Et à partir de ça, j'ai aussi des petites images. Bon, les petites images, ce qui est intéressant, c'est un truc que j'avais vu chez Chris Ware. D'accord, je m'étais dit, c'est marrant, chez Chris Ware, il utilise ça, mais lui, au lieu de dynamiser son récit avec ça, il le fige. Et je me dis déjà que c'est assez statique, Chris Ware, il le rend encore plus statique, et tout devient objet. Et je me suis dit, non, moi, ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est de faire le contraire avec ça. Donc je me suis dit, je vais utiliser des petites images, non pas pour dire, regardez, la clé n'est pas dans la série, tout ça, mais pour dire, à ce moment-là, ce personnage pense ça, et il réfléchit à ça, et je vais donc, ça, je vais utiliser ça pour psychologiser le personnage, pour lui donner plus de profondeur. Et je me suis dit, c'est le meilleur moment où on cadre, on fait un gros plan sur un personnage, et surtout avec les personnages que j'utilise ces petites images, et on peut traduire une petite émotion, un sentiment, un temps de réflexion, des tas de choses comme ça, un personnage qui se pose une question, il n'est pas sûr de lui, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait comme ça raconter des tas de petites choses miniatures qu'on ne peut pas raconter dans une seule image. Et à force de développer ce système-là, bah, je me retrouve avec des images gigantesques et des images minuscules et une page joue sans arrêt sur des images fermées, ouvertes, petites, grandes, etc. Quoi.
Ça crée une composition aussi très dynamique.
Ben, ça donne une composition dynamique du fait que je n'utilise que les éléments indispensables. C'est-à-dire, si j'ai pas besoin du décor, je mets pas le décor. Si j'ai besoin du décor, je mets le décor. Si j'ai besoin d'une petite image, je mets une petite image. Donc à chaque fois, tous les éléments sont calibrés en fonction de ce que j'ai à dire. Pareil pour les bulles, par exemple, ce qui rend dynamique la lecture, même si parfois il y a beaucoup de texte dans une page, c'est que il y a des césures partout. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon dialogue, je coupe jamais mon dialogue n'importe où. C'est-à-dire si je vois sujet, verbe, complément et qu'on peut respirer après le verbe, je ne vais pas respirer, mettre une respiration là où il ne faut pas en mettre. Je ne vais pas faire comme les journalistes à la télé qui coupent au prompteur absolument n'importe où. Donc je me suis dit, il y a une espèce de rythme comme ça de lecture et en lisant, on passe à la ligne. Donc je me suis dit, il y a une lecture visuelle de ce qui est du texte. Donc ça, je vais jouer avec ça. Et je vais jouer aussi sur un truc, c'est le temps de pause qu'il y a entre une phrase et une autre phrase quand c'est nécessaire. Ne pas avoir une bulle, mais couper en 2 bulles ou 3 bulles, parce que voilà, cette lecture, ça donne des respirations. Donc il y a des respirations courtes ou plus longues, donc je joue avec des césures comme ça. Et tout ça vient s'intégrer avec les images, et tout finit par travailler de concert pour raconter quelque chose. Donc c'est vraiment l'art de la composition, et je vais continuer de pousser ça d'album en album, plus loin possible, quoi.
Tard de voir ça. Récemment aussi, donc dans certains de tes albums, que ce soit par exemple celui que tu as fait avec la famille pirate, il a été des notions d'esclavage qui ont été abordées. Dans cet album, c'est aussi un peu la vision justement européenne, donc très coloniale, encore un peu coloniale et qui est encore le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est important pour toi justement d'aborder des thèmes qui peuvent être un peu politiques auprès d'un jeune public comme ça ?
Mais moi, je crois qu'on peut parler de tout aux enfants. Et qu'il faut leur parler de tout, mais simplement il faut trouver le bon canal, l'onde, le bon niveau pour leur parler de ça. Donc on peut pas creuser à fond un sujet, mais on peut suggérer quelque chose, dire voilà, là il y a un problème. Et en fait je donne pas de réponse. Ce que je fais, c'est que je pose une question, puis c'est aux enfants de réfléchir. Je vais pas leur dire tu dois croire en Dieu ou pas y croire. Moi j'ai mon opinion sur ça, mais après tout, à eux de se faire leur propre opinion. Donc généralement j'aborde un thème, et toutes ces choses-là sont suggérées et esquissées. Et puis je laisse les gens réfléchir avec ça. Mais à travers une histoire, il n'y a pas, un seul thème. Il y en a plusieurs. Il peut y avoir, par exemple, dans le tome 3, il est question effectivement d'adoption. Il est question des chocs des cultures entre l'Afrique et l'Occident. Il est question d'échanges culturels avec la cuisine. Il est question énormément du langage, de ce qu'on comprend, qu'on ne comprend pas les uns avec les autres. Et tous ces thèmes-là peuvent travailler ensemble, c'est-à-dire on peut trouver des points, des nœuds entre tout ça. Et des gens vont lire cette histoire, et ça c'est drôle, j'ai vu des critiques qui l'ont lu et qui ont vu une histoire, et d'autres critiques qui ont vu une autre histoire. Et quasiment quelqu'un s'est intéressé à quelque chose dedans. Et je me suis dit, tant mieux, en fait, il y a une sorte de gros fil rouge qui est très simple, et de toute façon il y a plein d'histoires. Et en plus, chaque personnage a son histoire. C'est-à-dire, Astrid, elle a son parcours dans l'histoire, sa mère a son parcours. Chaque protagoniste a son niveau à lui. Ce qui fait que j'écris quasiment... j'ai une sorte d'idée au départ et j'ai plein de fils comme ça, j'ai plein d'histoires et je me débrouille pour tresser tout ça. Ce qui fait que c'est très complexe et mon éditrice arrive et me dit il y en a trop, vire ça, enlève ça, développe ça, etc. Parce qu'à un moment c'est un bazar pas possible et on arrive à quelque chose qui est simple à l'arrivée, mais quand on décortique tout ça, c'est extrêmement c'est plein de courbes de récits qui sont les unes sur les autres. Mais les thèmes, forcément, il y aura toujours des thèmes, tous les thèmes m'intéressent, je pourrais parler de n'importe quoi aux enfants. Mais j'ai pas envie de les creuser à fond, ces thèmes. Je sais que le thème des colonies, ça reste encore assez compliqué dans les écoles. C'est-à-dire qu'on leur enseigne des gros stéréotypes, même aux ados, au lycée, au collège, et on leur dit, voilà, c'était comme ça les colonies, alors c'est soit une vision bien communiste, soit une vision bien, bien débile, quoi. Et à la réalité, c'était pas ça du tout. La réalité, c'est jamais ça. La réalité, c'est toujours plus complexe que ça, parce que ce sont des rapports humains. Donc leur dire, voilà, des gens arrivent quelque part, il y a un petit côté fable, et puis on se rend compte que, ben non, monsieur qui a une tête avec un petit chapeau de monsieur Banania, on croit qu'il parle le Tineg, et en fait, il parle pas du tout le Tineg, il parle très bien, il a peut-être fait Oxford, et tous nos préjugés sont sans arrêt désamorcés comme ça, quoi.
Je trouve que page 5, y a une phrase qui résume tout, c'est le père d'Astrid qui dit à l'enfant sauvage, rentre chez toi, et son majordome qui répond, si je puis me permettre, c'est nous qui sommes chez lui, je trouve que c'est... Il y a souvent, d'ailleurs, il y avait aussi la cuisinière dans le deuxième tome qui remettait un peu les enfants à leur place. C'est souvent une espèce de phrase un peu d'accroche comme ça. C'est quelque chose que vous prenez plaisir à écrire, je suppose.
Ah oui, mais ça c'est parce que en fait c'est un microcosme, c'est-à-dire qu'il y a il y a une sorte d'autorité en haut, c'est les parents d'Astrid qui sont des gens très riches, donc il y a déjà le rapport par rapport à leur gamine, mais la gamine d'un point de vue social elle est au-dessus des domestiques. Mais les domestiques, ils peuvent pas dire clairement ouais, ce que vous dites c'est n'importe quoi, leur patron, sinon ils vont se faire virer, c'est comme notre société, quoi. Donc ils le disent en demi-teinte, mais ils sont pas stupides non plus. C'est pas parce qu'ils sont en bas de l'échelle qu'ils n'ont rien à dire et qu'ils pensent rien. Donc il se permet comme ça, c'est pour ça qu'il est un peu complexe ce majordome, il se permet de faire des remarques pour leur dire mais non, ils sont là, ou à un moment il fait une remarque sur. Quand ils sont tous à table, je ne sais plus à quel moment, vers la fin, où il fait une remarque sur... Essayons de retrouver cette page, où ils sont tous attablés, et puis les pygmées qui sont tous à table ont un discours égalitaire, et puis il fait une remarque là-dessus, quoi, pour dire quel magnifique discours égalitaire. Et son patron lui dit de manger pendant que c'est chaud, quoi, parce que voilà, c'est bien joli, mais ça le gêne, c'est que quelqu'un lui fasse comprendre qu'on puisse avoir un discours égalitaire en tant que valet, quoi. On n'a pas à être égalitaire, non. C'est... Mais il y a toujours des choses comme ça qui sont très subtiles, qu'un enfant ne va peut-être pas percevoir, mais en même temps, un enfant dans la société, c'est des choses qu'il vit sans arrêt. Donc il y a bien un moment où ça doit être inoculé comme ça dans des livres, quoi.
On peut dire pour conclure que vos œuvres, c'est un mélange de diffusion et d'éducation pour faire passer justement des messages importants au jeune public.
Pour moi, de toute façon, un livre pour enfants doit être éducatif. En plus, là, c'est chez Rutsev, donc il y a l'école des loisirs qui est pas loin. Et si c'est pas éducatif, je vois pas l'intérêt de donner un livre à un enfant qui est juste divertissant. Il va le lire, il va le jeter, puis... Autrement, ça va être très archaïque, ça va être brutal, et on va en faire quoi, une petite brute? Non, je préfère que les enfants, ils aient lu ça, ils trouvent ça charmant, ils trouvent ça agréable, il y a des jolies couleurs, il y a tout ça, c'est très esthétique. Comme ça, je me dis, ça va les ouvrir vers l'art, et puis à la fin, ils vont le refermer, puis il y a des choses qu'ils vont pas bien avoir, ils vont pas avoir tout pigé. J'ai pas envie qu'ils comprennent tout d'un coup. Ils vont se dire, c'est un peu plus compliqué que ça, puis ils vont le relire, puis ils vont grandir, et ils vont se dire, ah... C'est ça qu'il y a derrière ça, etc. Et puis ils vont se rendre compte que c'est un peu un livre-nom, quoi, un petit univers. Et puis derrière, il y a plein de strates, quoi. C'est ça.
Merci Fabrice Perm. Je pense qu'on peut conclure en disant que Astrid Beaumur, c'est l'utilité publique pour les enfants et pour les grands aussi. Merci encore.
Merci beaucoup.
À très bientôt.